Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International. Alors vous le constatez, nous ne sommes pas dans notre studio habituel de Paris. Nous avons installé le décor de cette émission au Sénégal. Nous sommes dans sa capitale, Dakar, et nous sommes accueillis par le président de la République, M. Macky Sall. Monsieur le président de la République, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais avoir le plaisir avec Sophie Malibaud de RFI et avec Martine Jacquot du Monde de vous interroger sur la francophonie, sur la situation politique et économique de votre pays, sur ce qui se passe en Afrique, bref, beaucoup, beaucoup de thèmes. Alors, nous réalisons cet entretien au moment où va s'ouvrir ce sommet de la francophonie. Il faut le rappeler, 77 États ou gouvernements représentés ici, une quarantaine de chefs d'État, donc un beau succès. On peut aussi rappeler que c'est la deuxième fois que votre pays accueille un sommet de la francophonie, rendre hommage au président Senghor ou à un autre de vos prédécesseurs, Abdou Diouf, qui va quitter ses fonctions de secrétaire général. Qu'est-ce que revendique le président de la République du Sénégal quand il accueille cette fête, ce sommet de la francophonie?
D'abord, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue au,
merci,
pays, de la,
président.
Au pays de la Teranga. Comme vous l'avez si bien dit, le Sénégal accueille pour la deuxième fois le sommet de la francophonie. Le premier a eu lieu en 1989. 25 ans après, j'ai eu l'honneur d'accueillir ce sommet qui correspond au départ du président Diouf comme secrétaire général. Donc il y a tout un symbole et nous avons voulu à travers ce sommet rendre hommage à cet homme public qui a été, il faut le rappeler, président de la République du Sénégal pendant 19 ans, qui a été premier ministre pendant 10 ans, qui a eu donc un parcours tout à fait exceptionnel, qui a succédé au président Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie et qui, donc, pendant 12 ans, a dirigé notre organisation commune. Donc, au moment où il prend sa retraite, j'avais souhaité accueillir le sommet et les chefs d'État et de gouvernement m'ont fait cette faveur, cet honneur. Donc, nous sommes très, très heureux d'accueillir ce 15e sommet.
Il y a un débat fréquent. La francophonie, c'est un espace culturel, politique, d'exigence de gouvernance aussi. C'est quoi? C'est ça tout à la fois?
La francophonie, au-delà de la langue, ça a été le premier jalon. Une francophonie culturelle, la langue française que nous avons en commun. Mais elle est passée très vite vers un espace où nous partageons des valeurs communes, valeurs universelles, la démocratie, les droits de l'homme, ainsi que tout ce qui peut permettre à l'être humain de s'épanouir. Et de cela, nous sommes également passés vers un autre niveau dans la francophonie, celle des peuples, qui pose le problème également de la démocratie, les préoccupations de développement. Et c'est pourquoi je pense que la dimension nouvelle va être la dimension économique, puisque c'est un espace assez large, c'est 14% de la population mondiale.
Pour 5% de la population seulement.
Voilà, mais 5% des échanges, 20% des échanges commerciaux. Donc c'est un espace important si nous savons saisir les opportunités qui s'offrent au monde francophone.
Ça c'est pour l'économie. Martine Jacquot, Le Monde.
Vu de l'extérieur, Monsieur le Président, on a l'impression d'un paradoxe. Le français est enseigné dans le pays de feu le président Senghor, Abdou Diouf, dans votre pays, au primaire depuis très longtemps. Or, selon l'Observatoire de l'Organisation internationale de la francophonie, il y aurait seulement 30% de la population sénégalaise qui parle le français. Alors, ma question et mon interrogation, c'est comment voyez-vous l'avenir du français dans votre pays par rapport au Wolof? Et on voit bien, en étant à Dakar, que dans la rue, dans les médias, le Wolof est à l'Assemblée nationale, le Wolof est de plus en plus utilisé, par rapport à l'anglais et aussi par rapport à l'arabe, qui est de plus en plus enseigné dans les écoles coraniques.
Alors, vous avez raison, il y a un paradoxe, mais c'est ce paradoxe qui fait la richesse de la francophonie. La francophonie, c'est le français en partage, mais c'est aussi la diversité. Le français ne doit pas être en opposition avec les langues nationales, puisque de cet échange, de l'échange qu'il y aura entre le développement de nos langues nationales, qui est une nécessité pour nous, et l'adoption du français comme langue de travail pour ce qui concerne le Sénégal et la plupart des pays africains francophones qui ont adopté le français comme langue officielle de travail. À côté, vous avez plusieurs autres langues nationales qui doivent être promues et c'est cette diversité justement qui fait l'avenir de la francophonie. Je pense qu'il n'y a pas de risque en Afrique. Nous sommes aujourd'hui près de 200 et quelques millions de locuteurs. peut-être 800 millions dans 50 ans.
Donc une grande partie en Afrique.
Pour l'Afrique, je parle de l'Afrique. Ouais. Donc l'avenir de la francophonie, c'est d'abord l'Afrique. Mais c'est l'Afrique dans sa diversité.
Qu'est-ce que vous allez conseiller à votre fils? Je crois que vous avez un fils en bas âge.
Oui, j'en ai.
Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes Sénégalais? Leur langue, est-ce que vous leur conseillez d'apprendre plutôt l'anglais, plutôt le français? Comme la Côte d'Ivoire actuellement songe à le faire, c'est-à-dire à obliger en première année d'université ses étudiants à apprendre l'anglais. Est-ce que vous leur conseillez d'apprendre plutôt l'anglais, plutôt le français, les deux en plus de leur langue maternelle?
Non, le français c'est déjà une langue obligatoire dès la maternelle déjà ici au Sénégal. Donc c'est la langue enseignée à l'école en base et c'est la formation de base à partir de la sixième. On prend l'anglais comme seconde langue et donc on poursuit jusqu'au baccalauréat. De plus en plus de parents choisissent de mettre leurs enfants à l'école bilingue, de façon à leur permettre d'être parfaitement bilingue au baccalauréat, anglais, français. C'est mon cas, puisque j'estime que nous devons donner des chances aussi à nos enfants et nous devons en faire des citoyens de demain, francophones certes, mais des citoyens du monde capables aussi de communiquer avec la principale langue de communication. Même si le mandarin, point de vue du nombre, est le plus important, mais l'anglais est une nécessité absolue aujourd'hui pour tous les citoyens du monde, y compris les citoyens africains. Donc, mais tout cela ne met pas en péril le français. Ce qui met en péril le français, c'est que, d'abord, les officiels gouvernants ne parlent pas français, surtout dans les instances internationales. Et c'est malheureusement souvent le cas en Europe, pour ne pas dire en France, ou très souvent
l'Union
dans les réunions internationales,
les
Français eux-mêmes s'expriment en anglais. Mm-hmm. Je pense qu'il faudrait que tous les francophones exigent que dans toutes ces institutions internationales, à l'ONU, dans toutes les institutions, que cette langue, qui est quand même la quatrième au monde, soit une langue de communication et que cela soit une nécessité absolue. Maintenant, je pense qu'il faudra que le français cohabite avec l'anglais, c'est une nécessité absolue. Il faut qu'il cohabite avec les langues africaines, les langues océaniques, les langues locales, de façon générale.
Pour que l'on dise que plus tard, l'Afrique représentera 85% des locuteurs de français, ça suppose que l'éducation dans tous les pays d'Afrique progresse. Qu'est-ce que vous, dans votre pays, vous faites pour que l'éducation nationale progresse, pour que le niveau de scolarisation des élèves s'améliore.
Le Sénégal a beaucoup misé sur l'éducation, puisque nous sommes un pays sans ressources naturelles. En tout cas, jusque-là, pas abondante.
Peut-être bientôt du pétrole.
Oui, peut-être très bientôt. D'ailleurs, il y a eu une découverte. J'espère qu'elle va être importante. Mais en attendant, notre seul capital, c'est les ressources humaines. Donc, nous avons beaucoup misé sur l'éducation et nous investissons beaucoup sur l'éducation et la formation. Le taux de scolarisation a évolué très positivement. Nous sommes presque bientôt au taux universel. Nous avons encore quelques efforts d'ici 3 à 4 ans pour atteindre un peu ces objectifs. Nous avons des efforts à faire puisqu'il y a effectivement ce paradoxe de l'enseignement du français, de l'enseignement de la langue arabe à travers l'enseignement coranique, par exemple, ou l'enseignement arabe, tout simplement. Et il fallait intégrer, disons, ces lettres en arabe qui, jusque-là, n'étaient pas prises en compte dans les taux de scolarisation. Donc, ce qui fait qu'à la limite, les statistiques devaient être revues, puisque plus de 300 000 jeunes chaque année rentrent à l'école publique, et à l'école française, je dirais, mais vous avez presque plus de 100 000 aussi qui sont dans les écoles coraniques. Et c'est la somme de tout cela qui devrait nous permettre d'arriver à une scolarisation universelle très bientôt.
Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'initiatives privées dans le domaine scolaire? C'est une recommandation qui a été faite en France par Jacques Attali, pour ne pas le nommer. Est-ce que vous trouvez que c'est une option, le développement du privé?
C'est une option fondamentale, puisque le public ne peut pas tout faire.
Mais est-ce que dans ces cas-là, ça ne crée pas un système à deux vitesses?
Non, pas du tout. Vous savez, le privé, il complète le public. Le privé a une particularité, c'est que, d'abord, c'est vrai qu'il n'est pas gratuit, mais il a la particularité aussi d'être stable. Aujourd'hui, vous avez énormément de grèves dans le système public. Malgré tous les moyens qui sont mis dans le privé, on ne peut pas payer son argent et être en grève.
Mais les grèves, elles ont une raison. Les grèves, elles ont un motif social.
Oui, il y a toujours une raison. Mais je ne discute pas de la grève. Mais je constate que l'instabilité dans le système public, au moins, cette instabilité n'est pas vécue dans le système privé. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que le privé est meilleur. Puisque chez nous, il est établi qu'en tout cas, au niveau du système secondaire, moyen et secondaire, l'enseignement public semble être meilleur. De par les résultats, le concours général et tout. À partir du supérieur, parce que dans le supérieur au Sénégal, le privé est en train d'évoluer très vite, les résultats pourraient être mitigés, mais il faut absolument une part de privé, mais nous tenons à maintenir l'enseignement public, surtout supérieur, et nous tenons à le préserver. C'est pourquoi nous avons investi encore dans de nouvelles universités, dans le recrutement d'enseignants, de chercheurs, pour maintenir les standards, et le Sénégal vient de remporter pratiquement 34 postes d'agrégés sur 35 présentés au CAMES, ce qui témoigne de la qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal, malgré les instabilités notées.
Est-ce que la francophonie vous est utile dans cette optique? Est-ce
qu'elle
vous sert concrètement à quelque chose?
La francophonie est utile, puisque si ce n'était pas elle, nous autres, avec notre Wolof, notre Poulard, nous aurions encore plus de mal à communiquer à travers le monde. Au moins, nous communiquons à travers une langue qui a fait le tour du monde, une langue qui est quand même parlée par plus de 200 millions de locuteurs.
Pour former les formateurs, pour former davantage de professeurs, pour réduire le taux d'analphabète, qui est quand même de 52% encore, je crois, au Sénégal, est-ce que vous pouvez vous reposer concrètement sur l'Organisation internationale de la francophonie ?
La francophonie l'organisation internationale joue un rôle, mais il ne peut pas remplacer les États. Ce serait une utopie. Il n'en a pas les moyens, il n'en a pas la vocation. Mais l'organisation internationale aide dans la définition, aide dans la conception de ces politiques d'enseignement de la langue et peut apporter une contribution, mais cette contribution va être marginale. L'important de notre organisation, c'est de nous mettre ensemble autour de valeurs que nous avons en commun, de susciter les relations économiques entre les pays francophones et de faire en sorte qu'il y ait une solidarité parmi nous au moment où certains sont touchés, par exemple, par des maladies ou par des crises particulières. Je pense que la francophonie, c'est plutôt cela que d'intervenir à la place des États.
Alors, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, on a commencé à le faire avec le système éducatif. On va parler de la situation politique et économique dans votre pays, la gouvernance. Vous avez peut-être été élu, notamment sur un slogan imprudent. Avec moi, tout va changer. On pourrait dire qu'en France, le changement, c'est maintenant, c'est compliqué aussi. Pour vous, est-ce que ça ne traduit pas, au fond, l'impatience des Sénégalais? Vous êtes au pouvoir depuis 2 ans et demi. Vous avez promis que les choses allaient changer. Et il semble que, les Sénégalais tardent à voir ce changement.
Je ne crois pas, je ne pense pas du tout que ce soit le sentiment majoritaire des Sénégalais. Depuis 2 ans et demi, beaucoup de choses ont été faites. Tout n'a pas été fait. Il est clair qu'en 2 ans et demi, on ne peut pas changer radicalement. Mais ce qui est important, c'est l'amorce qui a été faite. Ce qui est important, c'est la gouvernance qui a été imprimée.
Monsieur le Président, il y a une rupture avec l'époque de votre prédécesseur?
Je pense que sur beaucoup de domaines, il y a des ruptures fondamentales. Sur la perception de l'impunité dans ce pays, aujourd'hui, vous pouvez interroger dans la rue les Sénégalais s'ils pensent que la justice est devenue beaucoup plus équitable. Est-ce que les citoyens sont égaux devant la loi? Sur la gouvernance et la perception de lutte contre la corruption, il y a inéluctablement et incontestablement des résultats qui ont été positivement sanctionnés, d'abord par l'opinion sénégalaise, mais par la communauté internationale, par l'ensemble des sociétés qui font de la notation. Et le Sénégal a beaucoup progressé en matière de gouvernance en 2 ans.
Monsieur le Président, quand vous dites que tous les Sénégalais sont égaux devant la loi, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui, c'est le fils de votre prédécesseur, Karim Rouad, qui est donc en prison depuis 2013, sans qu'aucune charge n'ait pu être étayée, véritablement aucune preuve apportée. Est-ce que c'est normal que la chose se passe de la façon suivante? Que pensez-vous de l'état de cette affaire actuellement? Le procureur en charge de l'affaire a été démis en pleine audience.
Vous savez, d'abord, le Sénégal est une démocratie qui se respecte avec des principes dans le fonctionnement de l'État. C'est un, la séparation des pouvoirs. c'est l'indépendance de la magistrature et c'est le respect de la chose jugée. Aujourd'hui, ce dossier est pendant devant la justice. La justice est un pouvoir tout à fait différent du pouvoir exécutif. Vous comprendrez que je ne puisse pas me prononcer sur un procès en cours.
Mais vous avez choisi
sur un
quand
procès
même.
En cours, s'il vous plaît. Sur un procès en cours. La deuxième chose, vous avez dit qu'il n'y a pas de preuves. Je pense que vous devriez vous rapprocher de ce qui se passe au tribunal, de la partie civile, de la défense, pour vous faire une idée. Je ne crois pas que simplement pour des raisons politiciennes ou politiques, l'on puisse mettre quelqu'un en prison sans fondement. Je ne le pense pas. Maintenant, c'est un procès à relent politique, je le conçois, puisque la personnalité concernée, c'est l'ancien fils du président, de l'ancien président, c'est le fils de l'ancien président de la République.
Ancien ministre d'État.
Ancien ministre d'État. Donc forcément, il y a un relent politique.
On dit que cette cour, monsieur le président,
faites confiance à la justice sénégalaise qui a été choisie par l'Union africaine pour juger le président Abré. C'est une justice qui a fait ses preuves, ce n'est pas aujourd'hui, avec ce procès, qu'elle va perdre sa crédibilité. Ça, c'est très important à noter.
Cette cour de répression de l'enrichissement illicite ne permet aucun recours par la suite.
Ça, c'est faux aussi. Les gens, la preuve qu'il y a des recours, et ce qui retarde ce procès, c'est qu'à chaque étape, les avocats de la défense ont usé de recours devant la Cour suprême. Et la Cour suprême déjà s'est prononcée sur deux recours. Et il y en a d'autres qui sont pendant à la Cour suprême. Donc dire qu'il n'y a pas de recours, ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment, pendant l'instruction, il n'y avait pas de recours. Mais la Cour a été ainsi faite. L'Afrique a trop souffert de déperdition de ses ressources. En 1981, cette Cour a été instituée au Sénégal pour mettre un terme à la dilapidation des ressources publiques. Alors, donc, cette cour, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Elle était là. Je n'ai fait que la réactiver parce qu'on n'a jamais voulu la faire fonctionner.
Mais est-ce qu'elle a été réactivée de façon satisfaisante pour provoquer...
Elle a été réactivée selon les normes du droit sénégalais.
Mais à ce moment-là,
est-ce que l'affaire... Le procureur dont vous parlez, vous savez, les procureurs sont des magistrats debout, comme on dit dans notre jargon. Comment ils dépendent... Ils ont une hiérarchie. C'est différent des magistrats assis qui sont du siège. Procureur, il dépend du garde des Sceaux.
Par
conséquent, son choix ou son changement, l'essentiel, c'est qu'il réponde de la procédure, notamment de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui a été constant et fait. Donc, par conséquent, le choix du procureur n'a rien à voir avec la procédure en cours.
Cette mésentente entre le ministre de la Justice et le procureur qui vient d'être limogé est-elle due au fait que le procureur souhaitait peut-être élargir le nombre de cas à traduire en justice ?
C'est possible, mais vous savez, ce n'est pas à moi, président de la République, d'interpréter des divergences entre un procureur de la République et son garde des Sceaux.
Mais faudrait-il étendre les affaires liées au bien mal acquis ?
La logique voudrait que le garde des Sceaux propose son changement.
Faut-il élargir l'enquête à d'autres personnes ?
Oui, mais ça, tout dépend de l'opportunité. Comment pensez-vous que le Sénégal aujourd'hui, qui est déjà suffisamment engagé dans ce procès, peut ouvrir 20 procès en même temps, 20 dossiers, mettre les gens en prison ? Je ne le pense pas.
Alors, monsieur le président,
il faudrait d'abord, par étapes, parce que nous n'avons pas d'abord tous ces magistrats, nous n'avons pas tous ces enquêteurs, et il ne faut pas bâcler la procédure judiciaire. Justement, on parle de procès équitable, on parle du principe de la présomption d'innocence. Donc, on ne peut pas faire la justice dans la précipitation, parce que le temps des politiques, ce n'est pas le temps du judiciaire. Par conséquent, on ne peut pas se réveiller et dire il faut ouvrir tous les dossiers en même temps, mettre tout le monde en prison. Ce n'est pas notre vision. Et certainement, si le procureur de la République a une divergence sur cette question avec le garde des Sceaux, je pense que ce qui devait arriver est arrivé, mais ça n'a rien à voir avec le dossier pendant actuellement.
Alors, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, nous allons faire une pause dans cette émission, le temps d'un point d'actualité, et nous retrouvons dans exactement 1:30. Retour dans l'international, après ce point d'actualité, nous sommes accueillis ici même à Dakar, capitale du Sénégal, par le président de la République, Macky Sall, au moment où s'ouvre le 15e sommet des chefs d'État de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors nous évoquions la situation intérieure de votre pays, peut-être plus simplement, et comme ça on ne va pas faire le tour de la question, est-ce qu'aujourd'hui le principal opposant du président Macky Sall, ce n'est pas son prédécesseur, le président Ouad, qui est très actif, conférence de presse, on a l'impression d'une campagne qui se prolonge 2 ans et demi après votre élection.
Je serais très heureux d'avoir comme opposant un prédécesseur qui a un âge très avancé. Mais je me donne comme opposant aujourd'hui la crise qui peut frapper la jeunesse encore, la crise de l'emploi, les questions sociales. Et mon effort le plus important est concentré sur la protection sociale des populations sénégalaises. J'ai déjà mis énormément de ressources dans des transferts de ressources directement vers le monde rural en particulier, vers les ménages démunis, à travers un mécanisme dit de bourse de sécurité familiale, à travers une prise en charge médicale et une gratuité de soins pour les 0 à 5 ans, et surtout une couverture maladie universelle où nous essayons de passer des 20% de Sénégalais qui ont une couverture à 80% dans un horizon de 4 ans. Donc c'est ça vraiment le combat pour moi et c'est ça l'enjeu. Le reste vraiment ne m'inquiète pas puisque d'abord j'ai été très bien élu, il faut pas le rappeler, 100%. Il y a juste 2 ans et demi. Moi j'ai fait le tour du Sénégal pendant 3 ans et demi. J'ai fait plus de 90 000 kilomètres en voyant la réalité de notre pays, en créant des liens très solides. Et aussi, j'ai une coalition très large qui m'a accompagné, qui continue à m'accompagner.
Monsieur le Président,
je n'ai pas d'inquiétude vraiment électorale. Sinon, je n'aurais pas réduit mon mandat si c'était ça ma préoccupation principale.
Alors,
je n'ai pas de soucis politiques par rapport à mon devenir.
Pour que l'on comprenne bien, vous êtes un libéral, on classerait plutôt un homme de droite. Vous gouvernez, votre exécutif est plutôt à gauche, Parti Socialiste. Votre opposition est de droite. C'est un cas assez unique, ça.
Oui, c'est très spécial, puisque...
C'est sénégalais ?
C'est sénégalais, justement. Parce que ce qui m'a lié à la gauche sénégalaise, ça a été le partage de valeurs sur la nécessité de défendre la République. Au moment où on a failli perdre cet acquis fondamental. Donc, que ce soit la gauche, le centre, d'ailleurs... Le centre-gauche, moi-même j'ai été maoïste pendant ma jeunesse, donc au fond je suis pas très loin et en tant que libéral, je me classe comme un libéral social. C'est pourquoi ma politique, elle est à forte connotation sociale. Le reste, ce sont les principes, la démocratie, l'état de droit, la liberté. Mais il faut l'allier à une dose sociale forte, parce qu'une croissance sans inclusion n'en est pas une. Alors, on n'est pas très loin finalement les uns les autres. Mais le paradoxe, c'est que c'est ma famille libérale qui est aujourd'hui dans l'opposition, parce que c'est elle qui gouvernait. Donc, il est logique qu'elle soit aujourd'hui dans l'opposition. Mais il y a énormément de frères libéraux qui, aujourd'hui, ont décidé aussi de me rejoindre dans le combat que je mène pour le Sénégal.
Et
je
leur souhaite
la bienvenue.
Excusez-moi. Vous n'avez pas l'impression que cette dose sociale tarde à se concrétiser? Est-ce qu'il n'y a pas une inertie entre une différence, encore un paradoxe, entre ce que vous annoncez, couverture université médicale, bourse familiale, et la réalité de ce qui est sur le terrain. Alors je sais que vous avez entamé une réforme de l'administration assez vive, mais est-ce qu'il n'y a pas une résistance dans tout ça?
Il y a des résistances, forcément, puisque les
est-ce
acquis,
que c'est le
les avantages
du Sénégal,
acquis...
Actuellement,
vous savez, la réforme dans tous les pays du monde pose problème. Lorsque vous voulez changer... les acquis, forcément, il y a des résistances, puisque les gens, ils sont assis sur des avantages qu'ils veulent pas perdre. Donc, lorsque vous, par contre, votre souci, c'est le plus grand nombre, et qu'il faille, par moment, bon, resserrer un peu, il y a des grincements dedans. Mais cela ne nous arrête pas. Puisque nous avons décidé de réduire le temps de vie de l'État, et ça, c'est incontestable dans ce pays, il y a des rubriques où nous avons comprimé des dépenses, il y a des rubriques où nous avons alloué et allongé. Et aujourd'hui, contrairement au sentiment que vous avez, le monde rural se considère comme très accompagné. Les prix aux producteurs ont été valorisés en tant que producteurs d'arachides. Nous avons donné plus d'intrants, plus d'engrais subventionnés, du matériel agricole avec une modernisation une mécanisation agricole. Ça, c'est indéniable.
Monsieur au moment où je vous parle, vous développez votre action dans le cadre d'un mandat de 5 ans ou de 7 ans. Combien de temps vous vous donnez pour obtenir ces résultats?
Ces résultats, il est clair qu'en 5 ans, même en 7 ans, ils ne pourront pas être totalement faits. Je me suis fixé comme horizon de réaliser un mandat de 5 ans. Mais comme j'ai été élu pour 7 ans, il faut une réforme de la Constitution pour procéder à la réduction.
Alors pourquoi?
Ce qui est un peu inhabituel.
Mais est-ce que si vous faites cette réforme trop tardivement, vous pouvez vous l'appliquer à vous-même?
Je ne suis pas du tout obligé à le faire. J'ai voulu le faire pour donner l'exemple. Mais mon prédécesseur lui-même était dans le même cas, puisqu'il a été élu sur un régime de 7 ans. En cours de mandat, il a fait adopter une constitution de 5 ans, mais il a précisé que le mandat en cours devait aller jusqu'à son terme, donc au terme de 7 ans. Puis, il a fait un mandat de 5 ans. Moi, je veux donner l'exemple qu'on peut renoncer.
Donc, deux fois 5 ans.
Le pouvoir n'est pas une fin en soi. Donc, je ferai 5 ans et je demanderai la confiance de mes concitoyens pour poursuivre la politique qui est entamée.
Et donc vous avez droit, dans la constitution actuelle, vous avez droit à deux mandats.
À deux mandats, c'est clair. Le nombre de mandats ne pose pas de problème.
Vous estimez, au Sénégal, vous estimez que pour vous-même et pour les autres pays africains, francophones notamment, hein, on a tous l'exemple du Burkina Faso en tête, deux mandats de 5 ans, ça devrait être la norme que...
Deux mandats de 5 ans.
Abdou Diouf dit que, justement, les peuples en ont marre de voir en Afrique.
Des présidents à vie, oui.
Des présidents à vie,
oui. Oui, présidents à vie, certainement pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la culture de l'information, l'Internet, nous ne sommes plus dans les années 50 ou 60. Donc le monde a changé. Les citoyens ont changé. Donc, la manière de gouverner aussi a changé. Par conséquent, les deux mandats me paraissent être un idéal. Ça me paraît être un idéal.
Une décennie.
Une décennie. Si on n'a pas fait quelque chose en une décennie, c'est qu'on ne le fera pas si on a plus de temps. Et il ne faut pas que aussi les chefs d'État considèrent que leur présence à la tête de l'État doit être une obligation. Je pense que si l'on considère que la présidence, c'est un mandat, au service de son peuple, si on a la chance de l'exercer pendant 10 ans, on doit pouvoir donner la main à quelqu'un d'autre et puis aller faire autre chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans
Sophie Malibo,
en tout cas, moi, je m'inscris dans cette dynamique.
Et je
pense que chacun devrait méditer ce qui se passe actuellement pour éviter, bien entendu, des soubresauts et des violences inutiles.
Donc vous
maintenant, les pays étant différents, je dis toujours cela, gardons-nous de faire des jugements globaux et d'appliquer une recette pour l'ensemble des pays.
Mais le Sénégal est souvent cité en exemple. Est-ce que vous n'avez pas matière à commenter un peu ce qui se passe, par exemple, au Togo, où le président Faure Eyadema a décidé de ne pas toucher à la Constitution?
Mais je crois que dans le cadre du Togo, le président, il est dans un second mandat.
Oui,
et donc le problème du mandat ne se pose pas pour le moment.
Le nombre de mandats est illimité. Il décide de ne pas toucher à la Constitution, ce qui signifie qu'il peut se présenter à un troisième mandat. Est-ce que vous approuvez cette démarche?
Mais vous savez, il ne nous appartient pas vraiment de régler les problèmes du Togo. Il appartient aux Togolais de régler leurs problèmes et d'apprécier la situation de leur pays et de se donner une attitude, un comportement, mais ce n'est pas à moi, Sénégalais, de...
Alors peut-être, voilà,
le mouvement Yonamar qui a contribué à votre élection,
oui,
soutient donc la société civile au Togo, qui demande à ce que cette constitution soit modifiée pour limiter...
Oui, le mouvement Yonamar est dans son rôle. C'est un mouvement citoyen qui a la liberté de dire ce qu'il pense, d'accompagner ces mouvements homologues dans d'autres pays. Ben, je n'ai pas de commentaire à faire sur cela. Je pense que c'est plutôt positif.
Monsieur le Président, un autre pays dont on a beaucoup parlé, mais avec un néologisme, on a parlé d'un printemps africain. Votre collègue, le président Blaise Compaoré, chassé en quelques jours, en tout cas par la rue, au Burkina Faso, vous avez été surpris, et est-ce que vous l'auriez mis en garde? Vous avez été surpris par ce qui s'est passé à Ouagadougou?
Surpris par la soudaineté. Mais je pense que tout le monde pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés dans la réforme constitutionnelle du Burkina. Moi, j'aurais conseillé simplement à ce que cette réforme se passe par référendum et qu'ils prennent plus de temps dans le dialogue avec l'opposition. Mais il est très facile, après que tout ce soit passé, de dire je pense à ceci ou à cela. Je n'aurais certainement pas donné des leçons au président Compaoré, mais dans des discussions fraternelles, j'ai pas manqué par moment de penser qu'il fallait plus de dialogue avec
l'opposition. Est-ce que vous donneriez des conseils, par exemple, à d'autres pays? On peut penser au Congo-Brazzaville, on peut penser à la RDC, où d'autres présidents sont très tentés par un changement constitutionnel subreptice, comme on dit maintenant. Est-ce que vous estimez que c'est un enseignement, ce qui s'est passé au Burkina Faso, pour que d'autres évitent de jouer avec leur constitution?
Vous savez, je vous ai dit, moi, j'évite toujours de m'ériger en donneur de leçons.
En donneur de leçons, conseiller.
C'est contraire à ma personnalité, et à mon éthique. Mais je pense que dans des discussions fraternelles entre chefs d'État, oui, on peut expliquer qu'il faut éviter, en tout cas, des réformes tous azimuts qui peuvent heurter. Maintenant, comme je vous l'ai dit, encore une fois, les pays sont ce qu'ils sont avec leur histoire. En Europe, Il y a des régimes qui font plus de 3 mandats, on n'en parle pas. Parce que le régime parlementaire qui se passe en Europe, en Allemagne, en Angleterre, il y a des premiers ministres qui exercent, qui peuvent avoir 3 mandats, 4 mandats. Personne ne s'en émeut. Non mais attendez, personne ne s'en émeut. Donc si le principe c'est de dire qu'il faut 2 mandats, faudrait-il d'abord que chacun se l'applique. Sur ce plan, il faut dire qu'il y a déjà une dichotomie. Parce qu'en Europe, on l'admet, on le conçoit, on le comprend. En Afrique, on ne veut pas l'admettre. Donc, encore une fois, moi, le fétichisme de 2 mandats, je pense que c'est une norme. Quand un pays comme le Sénégal, je compte que c'est une norme, mais il faut se garder vraiment de vouloir en faire une fatwa applicable à tout le monde et dans n'importe quelle circonstance.
Est-ce qu'il est quand même dans le rôle de l'organisation de la francophonie de s'intéresser à ce sujet?
Absolument. La francophonie a même l'obligation de s'intéresser. Puisque, rappelez-vous, qu'au-delà de la langue commune, nous avons les valeurs communes. Et dans ces valeurs, vous avez la démocratie, les droits de l'homme, la citoyenneté. Donc, en tant que communauté francophone, nous devons nous intéresser et nous impliquer sur ce qui se passe dans notre espace. Et la démocratie, les élections, l'instabilité sont des sujets
pourtant,
que la francophonie doit prendre en charge. Et c'est le cas, d'ailleurs, présentement dans tous les pays où il y a des crises.
Ça devient difficile avec une organisation de plus en plus élargie, y compris à des pays comme le Qatar, par exemple.
Oui, c'est vrai que ça paraît être paradoxal. Mais comme nous voulons que le français soit une langue parlée partout, nous ne devons pas refuser l'adhésion à des pays, même s'il y a très peu de francophones, mais qui souhaitent adhérer à la francophonie, qui souhaitent avoir le label francophone et qui essaient de développer des instituts de langue française dans leur pays, je pense que nous devrions plutôt les accepter et élargir le plus largement possible pour avoir une plus grande influence et faire le marketing de notre communauté. La langue, mais aussi les valeurs que nous avons en partage.
Et ça ne risque pas de diluer justement votre
force? Non, pas du tout, parce que déjà, on ne parle que français lors de nos rencontres. C'est pourquoi il y a des pays comme l'Égypte. Le président aurait pu être là s'il parlait français. Il a envoyé son premier ministre qui parle parfaitement français. Il n'y a pas de risque de dilution, au contraire, mais il faut que aussi les grands pays de la francophonie acceptent la diversité. Et c'est la diversité qui est la richesse de la francophonie. Le français n'a rien à perdre dans l'élargissement vers d'autres horizons, pourvu que la langue et les valeurs que nous avons en partage soient vraiment le socle de notre richesse et de notre patrimoine.
Alors, Monsieur le Président, il y a des mots MAUX en Afrique, on parlera dans un instant d'Ebola. Comment expliquez-vous cette belle réalité que votre pays est plutôt l'un de ceux qui est à l'abri actuellement du djihadisme? À vos frontières, il y a eu le Mali, il y a des menaces extrêmement fortes. Comment luttez-vous contre ce risque de déstabilisation des djihadistes?
D'abord, les mots, vous l'avez dit, sont nombreux. Vous avez ce terrorisme, le djihadisme, comme vous le dites. Vous avez les maladies, et voilà. Nous sommes préservés par rapport aux extrémismes par un islam modéré. Parce qu'au Sénégal, nous sommes à 95% musulmans. Mais c'est un islam modéré, soufiste, qui est bâti autour de confréries locales. À l'exception du tijanisme, qui est aussi une des grandes confréries dont le père fondateur est Ahmed Tidjane, shérif qui est présentement couché au Maroc, à Fès. Le reste, ce sont des confréries où les fondateurs sont sénégalais. Chez Amadou Bamba pour le mouridisme, l'Imamoula pour les laïens, etc. Et les gens se reconnaissent à travers ces figures. Donc, ils ne subissent pas l'influence extérieure. Et ça, ça a été un rempart contre l'intégrisme. C'est d'abord le premier rempart. Qui fait que culturellement, l'islam aussi a trouvé une tradition africaine. L'islam est venu trouver notre africanité. Et je pense qu'il y a une sorte de syncrétisme qui nous préserve de l'extrémisme. Et donc, nous sommes pour un islam modéré, un islam tolérant, un islam de paix. Alors, nous devons tout faire pour préserver cet acquis et nous nous battrons de toutes nos forces pour que cet islam modéré soit préservé au Sénégal, qui est un islam qui cohabite parfaitement avec le christianisme, qui cohabite parfaitement avec l'animisme qui a été la première religion d'Afrique. Et donc, c'est cette combinaison, cette cohabitation qui fait la stabilité de notre pays et qui, pour le moment, nous préserve.
Est-ce que vous avez reçu des signaux d'alarme, des confréries disant risque ou existence de radicalisme, de radicalisation? Il y a eu un navire qui a coulé cet été au large de Dakar, qui était rempli d'armes, qui venait des Émirats Arabes Unis, qui se dirigeait vers le Mali. Est-ce que tout ça est enquêté?
Non, les clignotants, ils sont partout et ils clignotent de partout, dans tous les pays du monde, des plus développés aux moins développés. Donc sur ce plan, il n'y a pas d'exception. Nous sommes conscients aussi que le terrorisme n'épargne aucun pays. Quand on voit les chemins parcourus par de jeunes Français qui veulent aller en Syrie, qui passent par l'Afrique, la Mauritanie, parfois le Sénégal, via la Turquie, on se rend compte qu'aucun pays n'est à l'abri. Il faut se donner les moyens de suivre tout ça de très près et de pouvoir disposer de capacités devant nous permettre de réagir de façon prompte lorsque la situation l'exige. Et nous essayons de toutes nos forces et avec la collaboration des pays amis, que ce soit au sein de la CEDEAO ou de l'IOMOA ou de l'Union africaine, que ce soit dans nos relations avec nos partenaires comme la France, nous essayons d'avoir les moyens d'intervention. Prévention d'abord et réponse quand c'est nécessaire.
Alors, il y a un autre fléau, évidemment, qui frappe actuellement l'Afrique de l'Ouest, c'est Ebola. Il y a des cas, un cas au Mali, il y en a bien sûr en Afrique de l'Ouest. Quelle est votre politique? Il faut fermer les frontières, il faut couper les ponts aériens, maritimes, il faut s'isoler face à ce fléau, au contraire, jouer une solidarité?
L'un n'est pas antinomique à l'autre. Vous savez, Ebola est une maladie nouvelle qui nous surprend, même si Ebola est là depuis peut-être une trentaine d'années. La forme nouvelle qui s'est manifestée en Afrique de l'Ouest a été tout à fait foudroyante. Et nous avons aujourd'hui près de 5500 morts. C'est beaucoup. Mais, comme j'ai eu à le dire, 5500 morts sur une population africaine de 800 millions ne mérite pas que l'Afrique soit mise au banc des accusés, soit à la limite ostracisée et mise en quarantaine. Il faut de la solidarité, il faut faire face à la maladie, il faut développer une résilience, il faut maîtriser la propagation. Nous l'avons fait jusque-là au Sénégal, puisque nous avions eu un cas, notre système de santé a pu se déployer immédiatement. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu soigner ce cas.
Mais
pour le moment, alors, lorsque ça s'est manifesté, nous avions fermé nos frontières. La frontière terrestre est encore fermée avec la Guinée. Ce n'est pas vraiment un mépris, au contraire. Mais c'était une manière d'abord de faire face à la propagation de la maladie et d'avoir une maîtrise sur ce qui se passe. Mais aujourd'hui, que nous comprenons mieux la manière dont se propage Ebola, nous avons non seulement réouvert la frontière aérienne, les frontières maritimes. Et donc, aujourd'hui, les échanges se font et nous avons développé une solidarité réellement avec tous les pays, puisque même pendant la période où il y avait une fermeture, nous avions un couloir humanitaire qui a permis à d'autres pays d'intervenir en Guinée et en Sierra Leone et au Libéria. Donc, je demande que la communauté internationale accompagne les pays.
Se mobilise assez la communauté internationale?
pas assez à mes yeux. Il y a des pays, il faut dire, qui ont été des pionniers, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni. L'Union européenne a suivi, les Nations unies ont suivi par la suite. Elle s'est mobilisée, la communauté internationale, mais elle a mis du temps, il faut le dire, avant de prendre conscience du danger que représentait Ebola. Au départ, je pense que les gens ont considéré que c'était simplement une maladie africaine, peut-être, qui se déploie en Afrique. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience et il faut souhaiter que les choses évoluent positivement.
Alors, Monsieur le Président, au moment où toute la famille francophone se retrouve ici, et notamment la France, quand on regarde sur le terrain, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Il y a ici la Chine qui est très présente, il y a la Turquie. Est-ce que, au fond, les rapports historiques, économiques, diplomatiques avec la France, c'est aussi de l'histoire ancienne? Ça disparaît comme France-Afrique, selon un mot bien connu. Est-ce que l'Afrique est en train, peu à peu, de se passer de la France?
Il faut dire que les choses ont changé, puisque la France elle-même n'a plus les mêmes capacités pour faire face aux besoins de l'Afrique. Donc l'Afrique a forcément besoin de nouveaux partenaires. Il ne faut pas qu'on voit cette ouverture comme un enfermement vis-à-vis de la France. Les entreprises françaises sont très présentes sur le continent, elles y développent des affaires. Il faut que les autres également développent des affaires et nous sommes dans un monde de concurrence et de compétition. Et je pense que cela est une bonne chose pour tout le monde. Donc, nous avons la France comme premier partenaire aujourd'hui, économique. Les entreprises françaises sont les plus nombreuses en tant qu'entreprises étrangères, mais il est vrai qu'il y a des entreprises chinoises, il y a des entreprises turques, et il y a des entreprises américaines et autres, et je pense que c'est une très bonne chose. L'Afrique est une opportunité pour tout le monde, et il faut que tout le monde vienne faire des affaires, et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.
Mais par exemple, pour le Centre international de conférences qui héberge justement en tant que premier grand événement le sommet, vous avez choisi un cabinet d'architectes turcs, une entreprise turque pour construire le centre, grâce à un prêt de la Turquie qui a financé la moitié du coût. Est-ce que justement la francophonie vous a refusé des crédits à l'heure où on parle de cet espace économique commun conjoint?
Non, je voulais d'abord corriger, puisque c'est une entreprise française, un cabinet d'architecture français qui a conçu le premier plan. D'abord pris un cabinet français qui a conçu le projet et qui a été modifié par la suite légèrement, mais la substance est restée et je les ai gardés comme cabinet de contrôle. Donc, il y a quand même une touche française là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas fait de demande à la France ni à un autre pays.
Au Canada, traditionnellement.
Non, pas au monde francophone, parce que je n'avais pas le temps d'abord de me lancer dans ces démarches. Ensuite, je ne voulais pas trop de débats, puisque ça aurait pris du temps. Or, nous avions 15 mois entre la décision et la construction. Et nous avons pu construire ce centre
souvent,
en 11 mois. Avec une entreprise turque qui a déjà montré ses preuves. Évidemment, comme nous avions choisi une entreprise turque, j'ai quand même dit au gouvernement turc, vous avez une entreprise qui va travailler chez nous, mettez à contribution votre Exim Bank pour prendre une partie du financement, ce qui a été fait.
Sophie Malibu.
Et cette fois-ci, les Chinois n'étaient pas sur les rangs, eux qui font tellement de grosses infrastructures en Afrique?
Non, ils n'étaient pas sur les rangs puisque nous avions décidé de choisir une entreprise dont nous étions certains qu'elle avait l'expertise et la qualité, mais surtout qu'elle pouvait travailler dans les délais. Elle avait déjà donné ses preuves ailleurs.
Est-ce que ça tient aussi à la façon d'opérer? C'est-à-dire que, est-ce que vous aviez eu possibilité de faire travailler des Sénégalais sur ce chantier?
Absolument. Les Sénégalais, depuis le début, ont travaillé sur ce chantier jusqu'à son terme. D'abord, c'est une entreprise sénégalaise qui a fait tout le gros œuvre, donc tout le génie civil, a été entièrement fait par les Sénégalais. Ensuite, nos ingénieurs ont été recrutés par les Turcs. Il y a eu un vrai partenariat entre Turcs et Africains. Il ne pouvait pas y avoir d'appel d'offres dans la mesure où nous travaillons pour un délai de 11 mois à 15 maximum. Il fallait choisir une entreprise capable de travailler, mettre un cahier de charge sur le coût, et c'est ce qui a été déterminant, le rapport qualité-prix.
Une dernière question, Monsieur le Président, nous avons au terme de cette émission. Il y a un débat actuellement à travers le monde pour savoir s'il faut reconnaître ou non l'État palestinien. La France s'exprime sur ce point, la Suède, la Grande-Bretagne. Vous, pays musulman, comment est-ce que vous réagissez?
Le Sénégal, je dois vous dire, depuis la création de la Commission pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, a présidé cette commission aux Nations Unies. Nous avons ouvert l'ambassade de Palestine ici depuis très longtemps, depuis les années 75. Le Sénégal assure les charges de cette ambassade depuis cette date. Mmh. Il est normal que le peuple palestinien puisse disposer d'un État à côté de l'État d'Israël. Donc, sur cette question, nous, notre politique est claire. Maintenant, il faut aider les deux peuples, palestiniens et israéliens, à cohabiter, puisqu'ils ne peuvent pas se séparer. Mmh. Et il est légitime que Israël soit un État et reste. Mais il est légitime aussi que les Palestiniens aient un État.
Et qu'Israël soit peut-être un évident. Jour membre de la francophonie.
Pourquoi pas? Nous n'avons pas de problème pour ça. Nous sommes un pays tolérant. Nous n'avons pas ces problèmes de cohabitation ou de divergence fondamentale, mais qu'on reconnaisse quand même au peuple palestinien le droit de disposer d'un État et de vivre dans ce territoire.
Merci, Monsieur le Président de la République Macky Sall, de nous avoir reçus au moment où s'ouvre ce 15e sommet de la francophonie, ici même à Dakar. Merci à vous de nous avoir suivis sur les antennes de RFI de TV5 Monde, en partenariat avec Le Monde. On se retrouvera dimanche prochain pour une autre émission internationale. À très bientôt.
Merci beaucoup.